VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13 midi à Abidjan, 13 heures à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'élection présidentielle en Algérie. Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre puis chef de gouvernement du président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 74 ans, a été élu dès le premier tour pour succéder au président démissionnaire à la tête de l'État algérien. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'Autorité nationale des élections. Monsieur Tebboune a recueilli 58,15% des suffrages, a souligné le président de l'Autorité nationale, Mohamed Charfi, lors d'une cérémonie officielle au lendemain d'un scrutin marqué par une abstention record et qui s'est déroulé dans un contexte de contestation massive du régime au pouvoir en Algérie depuis l'indépendance en 1962. Seuls 39,93% des électeurs inscrits ont voté, selon l'autorité électorale. Le taux le plus faible de toutes les élections présidentielles pluralistes de l'histoire de l'Algérie. Et élection en Côte d'Ivoire, le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié et le FPI de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo vont présenter des candidats à la présidentielle d'octobre 2020. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Le FPI aura un candidat en 2020, a déclaré Assoua Adou, secrétaire général du FPI. Mais le retour de Laurent Gbagbo reste la grande inconnue. Depuis 2011, son parti s'est scindé en deux. L'autre faction est dirigée par l'ancien premier ministre Pascal Affinguessan. De son côté, le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikaoué, a confirmé que son parti ne va pas boycotter le scrutin. Il n'a pas avancé le nom de leur futur porte-drapeau et l'ancien président Henri Konan Bédié, âgé de 85 ans, entretient le doute. Le président Alassane Ouattara, 77 ans, lui aussi entretient le mystère. Il a récemment affirmé qu'il serait candidat si ses rivaux Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se présentaient. Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, est pour le moment le premier candidat déclaré. Après un long séjour en Europe, il a annoncé son retour pour le 22 décembre. La date butoir pour le dépôt des candidatures a été fixée à juillet 2020.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Le groupe État islamique a revendiqué hier l'attaque meurtrière d'Inates au Niger qui a fait 71 morts et des disparus. Niamey s'apprête à inhumer ses soldats. Et un deuil national de 3 jours a été décrété par le président Mahamadou Issoufou. Les précisions avec Irénée Armand Ngbo.
Le deuil national a commencé hier, selon la présidence nigérienne, qui indique aussi que la levée des corps des soldats tués aura lieu ce vendredi à la base aérienne de l'armée près de Niamey. Je m'incline devant la mémoire de nos soldats tombés à Inate, les armes à la main, a écrit le président Mahamadou Issoufou sur Twitter. Des centaines d'assaillants du groupe État islamique, qui a revendiqué l'attaque, ont mené mardi un assaut de plusieurs heures contre le camp militaire d'Inate, infligeant un revers sans précédent à l'armée nigérienne. Monsieur Issifou a dû écourter sa visite en Égypte pour revenir à Niamey où il a présidé hier matin une réunion du Conseil national de sécurité dont rien n'a filtré. Le président français Emmanuel Macron a condamné cette attaque et a annoncé le report à janvier du sommet avec les leaders du G5 Sahel qui devait se tenir lundi prochain à Pau dans le sud-ouest de la France.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, Ebola en République démocratique du Congo. 23 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés en 4 jours. Près des zones où la lutte contre l'épidémie est paralysée par l'insécurité. Le point avec Eddy Issango.
10 nouveaux cas ont été enregistrés dans la seule journée de mardi à Mabalako, au Nord Kivu. 6 autres ont été notifiés lundi, dont 3 médecins traditionnels, selon les comités multisectoriels de la riposte de l'épidémie. Mercredi, 3 cas ont été recensés dans le Nord Kivu, dont un dans une localité Biena qui n'avait connu aucune notification depuis 85 jours. L'activité de la riposte anti-Ebola est paralysée dans 3 zones de santé, Beni, Biakato, Mangina, pour des raisons sécuritaires. Le 28 novembre, une chargée de la vaccination et deux chauffeurs ont été tués dans une attaque à Biakato en Ituri. Un policier a été tué dans une attaque simultanée à Mangina dans le Nord Kivu. L'OMS et l'ONG MSF ont retiré leurs équipes non congolaises à Biakato. Ebola était en retrait, ces attaques vont redonner de la vigueur à l'épidémie et par conséquent, plus de gens vont mourir, avait déploré le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, après la double attaque de Biakato Mangina. Plus de 2210 personnes sont mortes depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août 2018.
Au Gabon, les agents publics sont en grève, un mouvement qui dure depuis près de 2 semaines. La plateforme dénommée le Bloc syndical de la première heure exige la satisfaction d'un cahier de revendications en plusieurs points. Pour les autorités, les problèmes administratifs et de rappel de soldes sont tributaires du recensement biométrique des agents publics en cours dans le pays. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Les services de la fonction publique à Libreville sont perturbés par un concert de vuvuzelas. Le bloc syndical de la première heure y a installé ses quartiers. Les grévistes exigent la fin de la période d'austérité décrétée par les autorités et un retour à la résolution des problèmes des fonctionnaires gabonais. Pierre Nitsa, porte-parole du bloc syndical de la première heure.
Pendant que nous faisons des sacrifices, nous apprenons à travers les médias et à travers les autorités elles-mêmes qu'il y a des gens qui détiennent dans leur maison les 85 milliards. Alors si on peut détenir dans sa maison 85 milliards, ça veut dire qu'on peut arrimer la pension de retraite, on peut octroyer des produits budgétaires à ceux-là qui en ont besoin, on peut payer les rappels, on peut régulariser les situations administratives, on peut régler au moins les 3/4 des problèmes que nous vivons aujourd'hui dans l'administration publique.
Pour les grévistes, le gouvernement doit prendre ses responsabilités en ouvrant un large dialogue social pour solder les vieux comptes.
Il s'agit des questions transversales. Si le Premier ministre est un homme responsable, il doit prendre sa responsabilité de faire convoquer dans l'urgence un dialogue social qui permettra de régler tous ces problèmes. En avril, il a convoqué la classe syndicale au nomade pour dépenser plus de 150 millions. Vous comprenez? Et dire à cette rencontre qu'il va mettre en place un dialogue social. Depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu dialogue social dans l'administration publique? Aucun dialogue social. Cette grève prendra autant de temps possible.
Après plusieurs jours de protestation, le bloc syndical de la première heure a récemment été reçu par la ministre de la fonction publique, Madeleine Baird, s'exprimant sur le bien fondé des revendications des agents de l'État.
Les sujets sont importants, les sujets sont pertinents. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de descendre dans des réponses précises. La seule chose que je souhaiterais vous dire, c'est que les décisions qui sont actuellement prises en matière, en ce qui concerne la fonction publique, sont exactement le contenu de vos préoccupations. Lorsque je prends les fonctions du ministre de la fonction publique, la première démarche qui a été la nôtre, c'était de définir qui étaient ces hommes et ces femmes derrière la masse salariale. C'est ce travail que nous sommes en train de faire avec le recensement biométrique, dont vous savez que le déploiement à l'intérieur du pays est actuellement en cours.
Selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, la masse salariale du Gabon a baissé de 2,8% par rapport à la même période en 2018 pour s'établir à 322,3 milliards de francs CFA au premier trimestre de cette année. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
Pour terminer, élection législative au Royaume-Uni, victoire pour le parti du Premier ministre Boris Johnson. Les conservateurs ont remporté le scrutin avec une majorité écrasante donnant aux champions du Brexit la sortie du pays de l'Union européenne les coups des franches pour accomplir cet objectif le 31 janvier. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La victoire est sans appel pour les conservateurs. Les touristes remportent 368 sièges sur 650 contre 317 lors du précédent scrutin en 2017. Les travaillistes de Jeremy Corbyn s'effondrent à 191 sièges contre 262 et les appels à la démission du patron du Labour ont déjà commencé à fuser. Cette large victoire permettra au chef du gouvernement de faire ratifier rapidement l'accord de retrait qu'il a négocié avec l'Union européenne, ce qui permettra au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier. Pour rappel, Boris Johnson n'avait pas réussi à faire adopter par le Parlement britannique l'accord de divorce qu'il avait négocié avec Bruxelles, faute de majorité à la Chambre des communes. Réaliser le Brexit doit permettre de tourner la page et de s'atteler aux priorités des Britanniques comme la santé, la sécurité et les infrastructures, avait affirmé le chef du gouvernement durant la campagne. À Bruxelles, où les dirigeants européens sont réunis en sommet, la France a salué une clarification du flou dans lequel était plongé le Royaume-Uni. Les nouveaux députés siégeront dès mardi et Boris Johnson leur déclinera son programme législatif par le biais du traditionnel discours de la reine jeudi.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.